Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question jusqu'à 14h. À 13h50, c'est bon à savoir de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi aujourd'hui, Lisa Marie?
Vous connaissez sûrement le mouvement MeToo, mais est-ce que vous avez entendu parler de Touche pas à ma virilité, un phénomène en Corée du Sud lancé par des hommes? Je vous expliquerai tout ça à 13h50.
On va passer un excellent moment. Mais avant, on va parler des retraites. Vous vous souvenez, c'était un sujet avant la crise sanitaire. Non, vous avez oublié, vous vous souvenez
non,
pas.
Non, on l'a
c'était
pas oublié.
Le sujet de Discord. Bon, c'est un petit peu loin, question gestion de priorité. Mais les macronistes espèrent faire passer une réforme d'ici la présidentielle. Du coup, certains ont lancé comme un os à ronger la retraite à 64 ans très rapidement. Est-ce qu'on y va? Ce matin sur CNews, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé son soutien à cette réforme.
Je suis favorable et je suis favorable pour une raison très simple. Parce que c'est l'intérêt des Français et l'intérêt de la France. Que tout le monde, globalement, que notre pays travaille davantage.
La retraite à 64 ans, ça coince du côté des syndicats qui estiment que c'est une mesure brutale et injuste. On écoute Laurent Berger, le patron de la CFDT, il était ce matin sur France Inter.
C'est pas une réforme de retraite ce qui est proposé. C'est une mesure budgétaire brutale et injuste. C'est ça, je veux dire, le relèvement de l'âge légal de départ, c'est pas une réforme des retraites, c'est une mesure budgétaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté. Qui peut imaginer que ça passe crème? Ça passera pas comme ça.
Alors, est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question, Emmanuel, évidemment, c'est oui.
Bah oui, parce que c'est intéressant de voir quand même que l'argument principal que donne Bruno Le Maire pour justifier cette réforme, c'est il faut travailler plus. L'argument financier, ce que dit Laurent Berger sur l'équilibre des retraites, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron, enfin, puisque c'est à lui qu'on prête cette intention de faire cette réforme, si on avait voulu prendre des mesures financières, il y avait des tas d'autres façons de procéder qui étaient moins douloureuses politiquement, notamment. Hein. Il y avait la possibilité, par exemple, de mettre en place, plutôt que prévu, d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation, ce qui était la réforme Touraine. Même les syndicats étaient pour. Et ça rapporte quand même 5 à 7 milliards par an. Donc ça va très très vite. Non, moi je pense qu'il y a effectivement le message qu'il faut travailler plus. Et oui, il faut effectivement travailler plus. D'abord parce que quand on regarde 64 ans, c'est déjà quasiment l'âge réel, effectif, auquel les Français, en moyenne, partent en retraite. On est à 63,4 ans. On a l'espérance de vie après la retraite qui n'a jamais été aussi longue. Et puis, surtout, encore une fois, la France est le pays qui travaille le moins, toujours, si on prend cet indicateur qui est, pour moi, le plus pertinent, qui est de rapporter le nombre d'heures travaillées à la population entière. Parce que c'est ça qui fait la richesse d'un pays, finalement. Et on est de loin le pays qui travaille le moins, 630 heures par an et par habitant. Et un des problèmes, et là je vais rejoindre Laurent, même si je veux pas dévoiler ce qu'il veut dire, mais c'est que effectivement, l'idée, c'est que les gens qui travaillent, c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est notamment qu'ils travaillent pas assez sur l'ensemble de la vie. Et la France est un des pays qui a les taux d'activité des seniors les plus faibles. Or, on sait que quand on repousse l'âge de la retraite, on a un effet quasi mécanique au bout de quelques années, qui est que ça augmente le niveau d'activité des seniors. Donc, par rapport à cette notion fondamentale qui est que oui, il faut qu'en France, globalement, on travaille plus, bah, c'est vrai que c'est une bonne proposition.
Laurent.
D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur un terme, un mot, et là je rejoins Laurent Berger, ce que propose le gouvernement, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, n'est pas une réforme. Ça n'est pas une réforme. On joue sur un des paramètres financiers et budgétaires, mais pardon, c'est pas une réforme. La réforme de la retraite par points que proposait le gouvernement avant la pandémie, ça, c'était une réforme. On pouvait être pour ou contre, mais ça, pour le coup, c'est une vraie réforme de fond. Mais
c'est là, pour ça que je dis que c'est un os.
Mais là, en l'occurrence, c'est pas une réforme. Donc, comme c'est pas une réforme, bah, c'est un objet politique. On fait de la politique. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Emmanuel, c'est que tu as dit quelque chose de très important. Les Français qui travaillent, travaillent beaucoup. Et parfois même plus que nos voisins. En revanche...
Oui, mais là, tu parles de durée hebdomadaire ou de durée mensuelle.
Non, en revanche, quand on rapporte le temps de travail au nombre de gens, bah oui, là, on est moins 10 ans que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de chômeurs. Donc, la solution, ça n'est pas de repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite, c'est de tout mettre en œuvre pour que ceux qui n'ont pas de travail en trouvent un. Et je parle toujours sous ton contrôle, parce que pour moi, le chip, c'est le docteur le chip, il sait tout en économie. Mais tu sais très bien que si demain, on arrive à mettre 1 million de chômeurs de plus au travail, il n'y a plus de débat sur les retraites. C'est fini. On a toutes les cotisations qu'il faut. Il n'y a plus de crainte. Les retraites sont payées. Il n'y a plus de problème. Donc, la question, c'est comment on fait pour mettre 1 million de personnes qui aujourd'hui sont à Pôle emploi, comment on fait pour les mettre au travail. Et ça, c'est le sujet le plus difficile. Mais jouer avec un nonos sur la retraite ou bouger le curseur, alors un jour on augmente les cotisations, le lendemain on baisse les pensions, le troisième jour on dit non, finalement c'est mieux de repousser de 2 ans. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, et Laurent Berger a raison, en plus c'est violent. Et toi Emmanuel, qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'à la rentrée prochaine, le pays retrouve la croissance, qu'il y ait une relance forte, etc., il va se passer quoi? On va mettre ça sur la table, il va y avoir 1 million de personnes dans la rue, ça va foutre tout par terre.
Et ça sert à faire des débats, c'était peut-être ça le but. Oui. Hervé Boulol est avec nous, bonjour, économiste à l'OCDE, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Est-ce qu'on travaille plus que les autres en France ou moins que les autres?
Eh bien, disons que ce qui s'est passé, c'est qu'on a un rattrapage très fort depuis 20 ans sur le taux d'emploi des 55-59 ans. Et en revanche, on a un décrochage extrêmement fort après 60 ans. Et donc, la question, on pourrait se dire, quel est le rapport avec les retraites? Est-ce que du coup, comme il y a moins d'emplois après 60 ans, est-ce qu'il faut ne pas du coup augmenter l'âge de la retraite? Ou au contraire, c'est une question de poule et d'œuf, est-ce que c'est l'âge de la retraite à 62 ans qui fait qu'on a des faibles taux d'emploi à 60-64 ans? Alors, par rapport au débat, on peut discuter de la sémantique. Mais dans les réformes, il y a des réformes systémiques, ce qui était proposé avec le régime universel, et des réformes paramétriques. Depuis 25 ans, on fait des réformes paramétriques. On change des paramètres. On en fait depuis 25 ans. C'est difficile de dire qu'on n'a pas eu de réforme de retraite en France.
Des petites choses par-ci, par-là, mais pas quelque chose de profond.
Oui, mais ce sont quand même des réformes. Je suis désolé. Et donc, ce qui se passe avec l'âge minimum à 62 ans, il faut être... Nous, on regarde évidemment en comparaison internationale. 62 ans pour un âge minimum, c'est pas particulièrement bas par rapport aux pays de l'OCDE. La moyenne est à 62 ans. Donc on est dans la moyenne à 62 ans. En revanche, la différence, c'est que c'est aujourd'hui 62 ans. Quand on regarde, quand on prend en compte l'ensemble des mesures légiférées et qu'on se projette dans le futur, eh bien la moyenne des pays de l'OCDE ne sera pas 62 ans en 2030 ou 2040. Ça augmente. Par exemple, la Suède augmente de 62 à 64. L'Allemagne augmente de 63 à 65, 63,7. Je parle de l'âge minimum. Je parle bien de l'âge minimum.
Mais l'âge moyen de départ à la retraite est de combien en France?
Donc, 63,4.
Oui, alors. Très bien. Voilà.
Oui, mais l'âge de sortie.
Donc on est déjà au-delà de 62 ans.
Mais l'âge de sortie du marché du travail est beaucoup plus faible.
Et oui, parce que, je vous interromps, mais c'est ça le sujet important. Aujourd'hui, une personne sur deux qui liquide ses droits à la retraite, qui part à la retraite, est déjà hors de l'emploi aujourd'hui.
Si je peux compléter, parce que oui, mais après il y a des effets de bord qui se passent où il y a des gens qui transitent via l'assurance chômage. Il y a les ruptures conventionnelles qui peuvent être utilisées comme des pré-retraites, etc. Oui. Et donc je vais revenir sur des chiffres très clairs. Depuis 25 ans, le taux d'emploi des seniors a augmenté beaucoup en France et dans les pays de l'OCDE de 20 points, 55-59 et 60-64. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur les 55-59, on est à la moyenne OCDE, 72%. En revanche, pour les 60-64, la moyenne OCDE est à plus de 50, 55% pratiquement, 53. La France est à 33% des 60-64. Et ce qui est important, c'est qu'on était à 10% il y a 20 ans. D'accord ? Donc on a eu une augmentation extrêmement forte, même pour les 60-64, même si on reste très très bas. On a une augmentation extrêmement forte, mais si vous aviez eu ce débat, j'imagine, il y a 10 ans, quand l'âge de retraite est passé de 60 à 62 ans, on aurait dit, oh là là, pas question d'augmenter à 62 ans, les taux d'emploi sont déjà très bas. Oui, on a augmenté et les taux d'emploi se sont accrus beaucoup, mais on reste encore très en retrait de la moyenne des pays.
Donc repousser l'âge de la retraite, c'est bien quand même mécaniquement faire que les 60-64 ans vont travailler travaillent plus de fait.
Alors c'est un facteur important. Après ce qu'on a entendu de la part, évidemment il y a un truc violent et on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de violent.
De la CFDT.
Ce qu'il faut faire c'est de faire ça graduellement et si possible en lien avec les gains d'espérance de vie. On ne devrait pas avoir ces débats tous les 10 ans. Ça devrait se faire graduellement en fonction des améliorations de la santé.
On va aller au 32-16 dans un instant, mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Et je vous rappelle notre question, faut-il travailler plus et plus longtemps? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Ghislaine qui est retraitée, qui habite à Rochemort en Ardèche. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour. Alors je reviens sur ce que disait la personne avant moi. Il y a l'espérance de vie, certes, mais l'espérance de vie en bonne santé qui permet de travailler, elle n'est pas du tout la même.
Toi, moi, tu as pris ta retraite à 62 ans, Ghislaine.
Oui, normalement, j'avais prévu d'aller à 65 ans. J'étais assistante de gestion, j'adorais mon job. Mais l'entreprise a été vendue et de ce fait, je n'ai pas eu le choix. Mais quand je travaillais, même si j'aimais mon job, je faisais de grosses crises d'hypertension, à la limite de me créer un AVC. Et j'ai dû la prendre à 32 ans. J'ai toujours un traitement. Je n'ai plus jamais refait une crise d'hypertension.
Donc toi, il fallait que tu t'arrêtes, en fait.
Ah bah oui, je m'en suis rendu compte après coup que j'ai eu de la chance d'arrêter. En outre, quand on est à la retraite, on n'est pas des inutiles parce que mes enfants sont parents tard, 46 et 39 ans. Donc, ils sont bien contents d'avoir mamie. Là, justement, cette semaine, les deux petits sont malades. Donc, à un moment donné, on n'est pas inutile en retraite. Et par contre, mon fils est conseiller pour l'emploi. Et il était en Haute-Savoie et depuis qu'il est à Montélimar, depuis le début, il n'aime pas son travail à Montélimar parce qu'il me dit toujours qu'il n'a jamais vu autant de gens qui n'avaient pas envie de travailler et aussi peu diplômés, donc incasables.
Ça fait depuis quand ça, Ghislaine, qu'il est à Montélimar?
À Montélimar, ça fait 5 ans.
Ah oui. Donc c'est pas un effet parce qu'on a souvent dit avec la crise le chômage partiel, sans travailler, tout ça, ça incitait pas les gens.
C'est vrai qu'en Haute-Savoie, le bassin d'emploi est totalement différent. En plus, les gens ont un plus haut niveau d'études. Ici, c'est très bas le niveau d'études. Ils sont pas motivés. Quand on n'a pas de niveau d'études, ben on n'a pas un bon job. Faut être objectif. Donc les gens, ils préfèrent vivre un petit CDD, des indemnités de chômage, du RSA.
Non, mais
des merdes comme ça.
Ghislaine pointe du doigt quelque chose qui est très différent, qui est très important, pardon. Tout à l'heure, on a dit on est très en retard par rapport à nos voisins aux autres pays de l'OCDE sur le taux d'emploi, notamment le taux d'emploi des plus âgés. Mais justement, si on peut rattraper ce taux d'emploi, et pas simplement chez les plus de 60 ans, y compris chez les plus jeunes, de façon générale, en population générale, mais nos problèmes liés à la retraite, ils n'existent plus. Ils disparaissent du jour au lendemain. C'est justement là où on a un effort à faire. Il y a parfois un rapport du simple au double en matière de taux d'emploi entre certains pays européens, par exemple, et nous. Si on arrive à combler ce fossé-là, mais il n'y a plus de problème de retraite.
Hervé Boulol, ça suffit juste de faire monter le taux d'emploi?
Non, alors ça ne suffit pas. C'est une mesure extrêmement... Le problème, c'est que ça fait partie de la solution. On ne va pas faire monter les taux d'emploi comme ça. L'âge de la retraite est un marqueur social extrêmement important. Mais ce n'est pas une baguette, c'est pas la panacée, ce n'est pas une baguette magique. Il suffit d'augmenter les taux d'emploi. Il faut des mesures d'accompagnement. Il faut donc notamment sur la formation, sur tout ce qui se passe au niveau de l'assurance chômage, etc. Et surtout l'accompagnement des chercheurs d'emploi après 50 ou 55 ans. Donc ça, c'est important d'avoir des mesures d'accompagnement. Ce que dit Ghislaine, c'est important. C'est qu'évidemment, il y a aussi des gens qui sont en incapacité de travail. Et donc, il faut avoir des mesures déjà de prévention sur les conditions de travail. Et également, c'est pour ça qu'on a aussi des pensions d'invalidité pour ceux qui sont en incapacité
de travail. Du cas par cas.
Voilà, du cas par cas. Maintenant, contrairement à ce qu'a dit Ghislaine, alors, il y a des cas particuliers qui sont évidemment qu'il faut prendre en compte. Mais en moyenne, il se trouve qu'il y a quelque chose, il y a le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que l'âge, l'espérance de vie a augmenté. Donc, depuis 20 ans. Mm-hmm. L'espérance de vie en bonne santé, alors les mesures sont plus fragiles parce que c'est des enquêtes. L'espérance de vie en bonne santé après 60 ans ont augmenté encore plus vite. Donc, c'est pas vrai de dire que, alors certes, toutes les années après 60 ou 65 ans ne sont pas en bonne santé.
Ah, attendez, c'est un point important parce qu'on entend généralement, et c'est l'argument de beaucoup de dirigeants syndicaux, de dire que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, voire recule.
Mais c'est faux. Regardez le rapport du corps, c'est très clair, ils ont des graphiques. C'est, 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 Voilà. On pourra le mettre sur votre site.
Ouais, d'accord.
Alors, la France est un cas, c'est pas le cas de tous les pays de l'OCDE. En moyenne, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres précis en tête, hein, mais si dans un pays donné, on a par exemple 25 ans d'espérance de vie après 60 ans, grosso modo, on peut dire qu'il y en a, par exemple, 16 ans en bonne santé et 9 avec des problèmes de santé. Et lorsqu'on augmente, donc en rapport de tiers en tiers, à nouveau, les chiffres ne sont pas justes. Mais jusqu'à là, les gains d'espérance de vie, eh bien, on gardait la même proportion en bonne santé avec des difficultés. Pour la France, regardez les rapports du corps, depuis 20 ans, les gains en bonne santé après 60 ou 65 ans ont été plus rapides que les gains ont simplement d'espérance.
Ce qui est plutôt un argument favorable à l'allongement de l'âge de départ de la retraite. Merci beaucoup Ghislaine d'avoir été avec nous. Dans un instant, on sera avec Tom qui a 24 ans et qui est à Paris et qui est plutôt côté Laurent Neumann. On vous attend, vous, au 32-16 pour parler des retraites. Est-ce que vous êtes prêts à travailler plus et plus longtemps? On vous attend sur RMC. À tout de suite.
Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question. Jusqu'à 14h, Neumann Le Chypre. Oui, on vit plus vieux. Il faut travailler plus longtemps. Laurent Neumann, non, le problème n'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On est toujours avec Hervé Boulol, économiste à l'OCDE. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 65% à dire non, vous ne voulez pas. Il ne faut pas travailler plus et plus longtemps.
Mais il faut qu'on soit plus nombreux à travailler.
C'est pas précisé dans le sondage, mais oui.
Mais non, mais il ne faut pas dire non. Il faut dire non et proposer une alternative. Moi, l'alternative que je propose, ce n'est pas de travailler plus ou plus longtemps quand on a un travail. C'est que ceux qui n'ont pas de travail puissent travailler. Et là, ça change tout. Les Français travaillent beaucoup. On n'est pas un peuple de feignants. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Les gens travaillent beaucoup. Quand ils ont un travail, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Donc c'est ça qu'on doit travailler, c'est obtenir que les gens qui n'ont pas de travail en trouvent un.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Tom qui nous appelle depuis Paris, qui est étudiant en commerce et en droit. Bonjour Tom.
Bonjour.
Toi tu es plutôt côté Laurent Neumann, mais il y a un mais.
Oui, moi je suis côté Laurent Neumann, je suis d'accord. Moi je prends l'exemple d'une personne avant le confinement. Quand les restaurants avaient fermé, elle avait 49 ans, elle m'avait dit le problème, c'est que si mon restaurant ferme, je ne retrouverai pas de travail derrière. Donc elle avait cette peur-là, et autour de moi, c'est pareil, beaucoup de gens qui ont environ la cinquantaine ne trouvent pas de travail. Donc même si on applique la théorie de Manu Le Chypre, qu'on repousse de 2 ans l'âge de départ, ok, ils vont travailler jusqu'à 52, 54 ans, mais ils vont encore être au chômage pendant 10 ans. Donc pour moi, ça, c'est pas une mesure qui est viable.
Par contre, on a un gros problème sur l'emploi des seniors pour toi.
Exactement, mais il y a une mesure qui doit être appliquée, n'en empêche, et qui a désorganisé tous les services publics quand elle a été prise, c'est les 35 heures. Pour moi, si on passe à 40 heures, d'après mes calculs, si on passe à 40 heures, et j'ai fait un calcul sur 37 annuités de travail, la personne travaille 1 an et 3 mois de plus si on passe à 40 heures. Donc là, on augmente effectivement le travail des personnes, mais sur le long terme.
Ouais, mais là, Tom, là tu fais autrement, certes, mais tu fais travailler plus les gens qui travaillent. Alors moi, je pense que le problème, c'est de faire travailler les gens qui ne travaillent pas. C'est pas de faire travailler plus ceux qui ont déjà un job. À mon avis, c'est pas ça la solution.
Mais donc
pour moi,
au passage,
c'est un des problèmes. Ouais. Pour moi, c'est un des problèmes, mais il y a un autre problème du travail au quotidien. Il y a deux autres problèmes et que vous n'avez pas touché, c'est la question de la fraude. Il y a eu un rapport sénatorial qui a révélé qu'il y avait 1,5 milliard de fraudes par an sur les retraites. De fausses retraites, des gens qui sont décédés, de retraite, etc. C'est 1,5 milliard d'euros quand même.
Ouais,
et
c'est
après,
beaucoup.
La deuxième chose, c'est la question de la natalité que vous n'évoquez pas dans le débat. On a de plus en plus de personnes qui vont aller à la retraite, puisque les baby-boomers vont de plus en plus à la retraite. Et de l'autre côté, on a une natalité qui est faible. Donc pour moi, on peut faire aussi une politique de natalité qui va permettre de financer les futures retraites, et on peut même mettre une solution alternative, c'est s'inspirer, mais pas de le copier, mais de s'inspirer du modèle danois, des fonds de pension français, qui seront complémentaires au système qu'on a aujourd'hui.
Alors attends, t'as beaucoup de propositions de curseurs différents. Tom, la natalité, Hervé Boulol, c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite. Si on augmente la natalité aujourd'hui, il y a un petit décalage, le temps que ça finance les retraites.
Oui, c'est ça. Il y a un décalage de 25. C'est quelque chose d'important, bien entendu. Et la France est plutôt bien située par rapport aux pays de l'OCDE. On sait, d'après les dernières données de l'INSEE qu'on évolue plutôt sur un scénario bas par rapport à ce qui est attendu il y a cinq ans même. Oui, c'est quelque chose d'important, mais évidemment, ça aura un impact au mieux dans 30 ans.
Mais
maintenant, juste, excusez-moi, deux choses, parce que vous avez raison, le sondage, 65%, évidemment, c'est extrêmement impopulaire. Personne ne veut travailler forcément plus. Il y a des gens qui souhaitent, mais globalement, on comprend très bien que c'est quelque chose d'impopulaire. Mais effectivement, la bonne question, c'est quelle est l'alternative? Si on fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, de ce point de vue, il y a des questions. Est-ce qu'on est prêt à cotiser davantage? Est-ce qu'on est prêt à avoir un niveau de retraite plus faible? Et des questions d'équité intergénérationnelle. Si on le fait pas maintenant, qui va finalement payer à un moment donné? Donc là, il y a cet aspect-là qui est quelque chose de très important. Et ensuite, au-delà des questions de retraite, on a en France un problème global de taux d'emploi, mais qui est taux d'emploi à l'entrée du marché du travail, jusqu'à 30 ans, grosso modo, et après 60 ans. Entre 30 et 60, on a des bonnes performances d'emploi en France. Donc le problème, il est concentré là-dessus. Et c'est un problème d'emploi globalement. Et ensuite, par rapport à la question du vieillissement démographique, qui est c'est important, de pouvoir faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps, contrairement à ce qui se passe maintenant, où l'âge de sortie du marché du travail est en France 3 à 4 ans plus faible que la moyenne des pays de l'OCDE.
Et c'est combien? C'est 58?
Non, l'âge de sortie du marché du travail est plutôt à 61, quoi, disons, de cette
époque-là. Alors, Hervé, justement, la perspective sur... parce que derrière tout ça, il y a quand même l'idée sous-jacente que notre système de retraite court à la faillite, qu'il faut prendre des mesures absolument urgentes, etc.
Mais c'est pas vrai.
Alors, quand on regarde le rapport du COR, effectivement, sur les 12 scénarios explorés... Il y en a 9 qui sont pas très pessimistes. Et puis, on se dit, le fameux choc des baby boomers. Bah oui, mais les baby boomers, là, c'est dans les 5-6 ans qui viennent, qui vont commencer à, finalement, si on regarde l'espérance de vie, bah, qui vont commencer, à disparaître, petit à petit. Et que donc, c'est cette génération massive dont on a financé la retraite là, après, elle sera moins nombreuse. Et c'est quoi l'urgence financière réellement?
L'urgence financière, il faut vraiment se pencher sur les chiffres et les alternatives. Mais sur le baby boom, vous avez raison, le gros de l'impact va être entre 2025 et 2035, grosso modo. Voilà. Mais ensuite, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point important, souvent quand on a les projections du COR, on dit, ah oui, on est en déficit, et ce qui est une mesure compliquée, le déficit du système de retraite. Les dépenses, on comprend bien, le déficit c'est plus compliqué. Bon, c'est technique. Mais on a un déficit et on reviendra à l'équilibre en 2035 et 2040, donc finalement ça va aller. Mais c'est quelque chose d'important qui a du mal à passer, je trouve. Il faut être le plus pédagogique possible là-dessus. Ce qui compte, c'est pas une approche en termes de déficit, c'est une approche en termes de stock. C'est-à-dire que les déficits, si on revient à l'équilibre en 2040, eh bien tous ces déficits-là de 2025 à 2040, on les aura accumulés en dette.
Ouais.
Donc ça disparaît pas en réalité. C'est pas parce qu'on revient à l'équilibre qu'on a résolu le problème. Il faut vraiment s'assurer qu'on a un équilibre financier en termes de stock, donc en termes de dette. Et là-dessus, effectivement, il n'y a pas forcément d'urgence, mais si on veut jouer sur l'équilibre en 2030, il faut prendre des mesures maintenant.
Il y a un autre élément, à mon avis, qu'il faut prendre en compte, et celui-là, il est très politique. Si jamais à la rentrée, ce qui est aujourd'hui un ballon d'essai devient un vrai projet avec vocation à l'introduire dans le projet de loi de finances à la fin de l'année pour l'année 2022. Et qu'on se retrouve à la rentrée de septembre avec des manifestations à répétition, toutes les projections sont les mêmes, ces manifestations, ces grèves potentielles, etc., risquent de nous coûter entre 1 point et 1,5 point de croissance. Pardon, 1 point et 1,5 point de croissance.
Mais toi, tu dis que c'est pas le moment de lancer ce débat.
C'est combien de dizaines de milliers de chômeurs en plus? C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut raisonner. Une réforme, elle est bonne ou elle est mauvaise. Je continue à penser que toucher les paramètres financiers, c'est pas des réformes. On joue sur les tableurs, etc.
Mais tu dis, c'est pas le bon moment.
Au-delà de ça, il faut se poser la question de l'acceptabilité. Qu'on mette cette question-là au menu de la campagne présidentielle.
Mais on dit toujours, le courage politique, c'est aussi d'aller au-delà de l'acceptabilité, c'est de pousser des réformes. Mais là, tu dis,
vous serez les premiers, toi, Laure, et toi, Emmanuel, à dire, bah mince, alors, il y a encore une grève de la SNCF et on peut pas prendre l'avion. Bah voilà.
Dans ces cas-là, on ne fait jamais rien.
Mais non, c'est un sujet de la campagne présidentielle. On met la question des retraites sur la table.
C'était pas déjà le sujet de la dernière campagne présidentielle?
Non, on a très peu parlé, figure-toi. Justement, c'est tout le problème. On a reproché à Emmanuel Macron, justement, de ne pas avoir été clair, de ne pas avoir été précis pendant sa campagne, et du coup, de nous avoir sorti une réforme de la retraite par points qui sortait de nulle part. Voilà le résultat.
Merci Tom d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Max. Max qui travaille dans le bâtiment. Bonjour Max.
Oui, bonjour.
Salut Max.
Pour toi Max, il faut déjà arriver jusqu'à 58, 60 ans dans le bâtiment, c'est pas simple.
Moi, c'est vraiment ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu. Alors souvent, ceux qui prennent des décisions, ils ne savent pas trop ce que c'est de travailler. Mais moi, aujourd'hui, j'avais déjà 10 ans que je suis sur les toits et j'ai déjà une grosse hernie fiscale. Je vois, j'ai des collègues qui ont 55 ans, qui sont dans un état mais déplorable. On peut plus leur faire toutes les tâches. Moi, je suis en toiture, donc c'est un métier qui est vraiment assez rude. Mais aujourd'hui, quand j'entends parler d'aller plus loin, alors moi, j'arriverai à aller plus loin. Parce que comme je suis chef de chantier, j'ai une formation, j'ai réussi à m'en sortir, je vais pouvoir passer conducteur de travaux. Mais le petit gars qui a 55 ans que je vous parle, lui, il est manœuvre. Donc lui, il pourra jamais évoluer.
C'est pour ça qu'il faut des indices de pénibilité.
Non mais c'est ça, Max, il y a des dispositifs carrière longue quand même qui sont prévus.
Mais il parle de la pénibilité.
Oui, justement, les dispositifs, c'est ça, c'est pour...
Oui, mais c'est là où je te dis que dire on passe à 64 ans, c'est le contraire d'une réforme. Une vraie réforme serait de dire on va prendre en compte la pénibilité. Ce qui a d'ailleurs été le cas dans la fameuse réforme de la retraite par points. Mais comme on est en train de l'abandonner pour se reporter sur des réformes paramétriques, du coup, les vrais sujets de fond, tiens... Sujet majeur, l'égalité entre les hommes et les femmes. Totalement inégalitaire le système aujourd'hui. Si tu joues juste sur la retraite à 64 ans, voilà encore un sujet que tu n'abordes pas. La pénibilité à laquelle Max fait référence ou l'inégalité homme-femme devant les pensions de retraite, tu n'en tiens pas compte. Tu continues le même système qu'aujourd'hui et tu changes juste un paramètre.
Max, parce que Max, tu disais, les décisions sont prises par des gens qui savent pas ce que c'est que des métiers pénibles, etc. Je rappelle quand même que c'est en 2010. Que l'âge de la retraite est passé à 62 ans. Ouais. François Hollande, en 2012, a élargi les conditions d'accès pour pouvoir profiter d'un métier pénible. Et du coup, aujourd'hui, il y a 180 000 personnes quand même chaque année qui partent en retraite en profitant de ce dispositif de pénibilité, y compris les polytechniciens, y compris les énarques par exemple, vous voyez. Donc
c'est quoi un travail difficile pour un énarque?
C'est ça, c'est-à-dire que on a été sans doute un peu trop loin. Donc si on voulait, et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc si on avait voulu faire des économies, encore une fois, si cette mesure,
j'en écarquille les yeux.
À 64 ans, n'avait pas été une proposition.
Attends, tu veux dire que sous François Hollande, on a décidé que le fait d'être polytechnicien ou énarque rentrait dans les métiers pénibles?
Oui, absolument. Il y avait toute une liste de métiers pénibles. Oui, alors, c'est lié au fait que quand tu es polytechnicien par exemple, tu as des trimestres très jeunes. En fait,
c'est carrière longue, c'est pas carrière pénible.
Oui, carrière
longue. Tu as commencé à travailler tôt.
Bon, après, pour les énarques, mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a exagéré là-dessus.
Même toi, tu rigoles rien qu'en le disant.
Et que si on avait voulu, encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans cette proposition aux 64 ans, c'est que si la seule ambition, elle était financière, il y avait encore une fois plein d'autres façons de faire des économies. Plutôt que cette proposition qui est politiquement provocante.
Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous au 32-16. Dans un instant, on sera avec Christian. Christian, il est routier et il ne se voit pas du tout travailler jusqu'à 64 ans. Hervé Boulol, vous restez avec nous, économiste à l'OCDE. On vous attend au 32-16. Neumann Le Chiffre sur RMC, on revient.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? Emmanuel Le Chypre dit oui, plus on vit vieux, plus il faut travailler longtemps. Laurent Neumann dit non. Le problème, c'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On est toujours avec Hervé Boulol, économiste à l'OCDE. Et on va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Christian, qui est conducteur routier, qui nous appelle depuis Poitiers. Bonjour Christian.
Bonjour.
Toi, tu es jeune Christian pour l'instant.
Oui, moi j'ai 28 ans, mais j'ai le cas de mon père, par exemple, qui a aujourd'hui 59 ans,
ouais.
Et qui est complètement usé par le travail, qui est en arrêt, qui a été reconnu en maladie professionnelle. Et donc, par exemple, j'entendais hier qu'on parlait peut-être de commencer la réforme de la retraite à partir des années 61, mon père est de 62, et mon père, déjà à l'heure actuelle, il peut plus travailler. Donc comment voulez-vous qu'on les fasse travailler plus? Et encore une fois, dans le métier de conducteur poids lourd, Moi, je vois des gens de 65, 70 ans qui sont encore derrière des volants parce que les patrons veulent pas les lâcher, parce qu'ils trouvent personne. Donc le problème, je suis entièrement d'accord avec Laurent, c'est de mettre tout le monde au travail. Les jeunes veulent pas travailler. Moi, j'ai connu une période de ma vie où j'alternais intérim et chômage. Et je gagnais plus d'argent à rester chez moi. Ça motive pas à aller travailler. Parce qu'en fait, quand vous comptez votre essence, etc., bah vous perdez plus d'argent à aller travailler qu'à rester chez vous. Bah vous restez chez vous. Et les jeunes, c'est ce qu'ils ont compris. Et le problème du système, il est là.
Juste, Christian, quand tu dis les patrons ne veulent pas les lâcher, c'est pas le patron qui décide à quel moment on t'autorise à prendre ta retraite.
Mais c'est que les mecs, ils trouvent pas de travail.
Oui, donc ils demandent auprès des conducteurs routiers plus âgés.
Certains veulent continuer, mais certains aussi. Moi, j'ai eu le cas quand j'étais chauffeur d'engin dans le temps public. J'ai eu le cas de certaines personnes de plus de 63 ans qui n'avaient pas le choix de continuer de travailler parce que ils avaient, malgré le fait qu'ils avaient travaillé, ils avaient des retraites de misère. On prend par exemple des agriculteurs, ils partent bien après 60 ans ou 62 ans à la retraite parce que sinon leur retraite elle est misérable, alors qu'ils ont passé toute leur vie et qu'ils ont fait tourner l'économie française. Donc il y a bien un réel boosting quand même de mettre les jeunes au travail. Aujourd'hui, les jeunes, ils voudraient 2200 euros.
Christian, mets-toi bien en face de ton téléphone parce qu'on te perd.
Les jeunes voudraient 2200 euros à 35 heures, à faire 8 heures, 17 heures. Bah non, c'est pas possible.
Sur ce sujet-là, il y a deux problèmes différents. Il y a effectivement cette incitation à travailler, et ça, je sais que Laurent, il aime pas cet argument-là, mais c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, il y a une désincitation à travailler compte tenu des dispositifs. Et comment en vouloir à quelqu'un qui gagne plus en ne travaillant pas qu'en allant travailler. Donc
mais
ça,
je croyais que sous la droite,
ça a été corrigé.
Je croyais que sous la droite, on avait résolu ce problème.
Non, mais ça a été un peu corrigé, mais ça n'a pas été complètement corrigé. Et puis il y a un problème terrible d'adéquation entre les compétences des salariés et les besoins des entreprises. C'est pas normal d'avoir 3 millions de chômeurs et d'avoir à la fois une entreprise sur deux qui dit qu'elle a du mal en moyenne, qui dit qu'elle a du mal à recruter. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et là, c'est là où il y a un effort de formation à faire.
Éducation.
Alors, et ça, c'est un problème. Hervé Boulol, c'est un problème français, ce problème d'inadéquation entre offre et demande.
Non, enfin, c'est un problème français. Il est exacerbé en France puisqu'il y a des pays où à nouveau le taux d'emploi même des 60-64 ans est plus de 60%. En Allemagne, on est largement plus élevé qu'en France en tout cas. Donc c'est un problème qu'on rencontre dans tous les pays, mais il est particulièrement aigu en France. Maintenant, ce qui a été dit, c'est, je suis d'accord qu'il y a deux questions différentes, mais c'est pas forcément les mêmes. Mais pour moi, deux points différents. Il est évident qu'il y a des métiers dans lesquels la lassitude pour travailler après 60 ans est plus forte que dans d'autres. Donc ça, c'est un fait. Et je vois pas très bien ce que le système de retraite peut faire par rapport à ça. C'est un problème. Et malheureusement, les solutions sont quand même compliquées. Et il y a autre chose.
Simple, permettre à un conducteur de travaux, à un type qui a travaillé toute sa vie sur les toits, de partir à 60 ans. Voilà, c'est simple.
Alors, il y a ça, ou alors, ça peut être aussi quelque chose du type, on sait que ça va être compliqué, et donc la personne, si on pense, ce qui est de moins en moins le cas, où c'est une carrière à vie dans le même poste, c'est de moins en moins le cas. Mais si on pense encore de cette façon-là, on pourrait dire, ah oui, on a 40, 45 ans, on va se retrouver dans ce job-là à 60 ans, et donc on prend des mesures, soit pour se former à d'autres choses, soit pour rester dans le même secteur, mais changer de boulot dans le même secteur d'activité. Il y a quand même plein de possibilités qui sont faites dans plein de pays.
On ne peut pas être sur des métiers pénibles jusqu'à...
Voilà, on n'est pas obligé, on peut penser à...
Mais c'est ce que nous dit notre auditeur tout à l'heure, il faut quand même avoir été formé, il faut
bien
que
sûr.
Ça ait été construit dans l'entreprise.
C'est pour ça que les mesures d'accompagnement sont importantes. Et maintenant, le deuxième point, je voulais dire quand même, c'était le cas du père de ce monsieur,
Christian,
de Christian, c'est effectivement, il y a des gens qui ne sont pas en incapacité, pas tout le monde, il y a des gens qui, à 60 ans, peuvent conduire des poids lourds. Il y a des gens qui sont en incapacité, et ça, normalement, c'est pas...
On doit prendre en compte le cas particulier.
Qui allons dire, c'est un docteur qui doit évaluer cette
justement.
Je prends un exemple, qui est l'exemple des militaires. Les militaires d'active, à partir de 45, 50 ans, ils peuvent prendre leur retraite. Et pourquoi on les autorise à prendre leur retraite? Parce qu'on considère que le travail qu'ils ont accompli sur le terrain, il ne peut plus s'accomplir à partir d'un certain âge. C'est très simple à comprendre. Ben, on peut se poser la question de savoir pourquoi, dans certains métiers très difficiles, ou quand tu as, par exemple, été chauffeur poids lourd pendant 30 ans, peut-être que t'as le dos en miettes, que tu ne peux plus faire ce métier. Peut-être qu'il faut réfléchir à la
possibilité. Tu verrais l'argent que met l'armée dans la formation pour justement ces militaires et l'après-carrière.
Très bonne question.
Et ça se commence à partir du premier jour
absolument,
où tu rentres dans l'armée.
Donc. Très très bonne remarque. Ce pays, je parle toujours sous le contrôle d'Emmanuel quand je cite un chiffre, on dépense 15 milliards d'euros en matière de formation. 80 ou 90% de cette somme va à la formation des gens qui ont déjà un travail. Et peut-être que le problème, c'est d'aider à se former ceux qui n'ont pas de travail, justement.
Les deux, c'est justement les deux.
Donc, mais c'est pas du 90-10. Là, on est à 90-10
aujourd'hui. La formation des gens qui n'ont pas de travail, elle doit être faite en amont.
Oui, bah oui. Mais on n'y consacre que 10% de ces 15 milliards.
Mais tu comptes dedans toute l'éducation nationale?
Non. Bon, bah, après l'éducation nationale.
On est avec Gilbert. Gilbert, lui, il est artisan maçon dans le bâtiment. Bonjour Gilbert.
Allô?
Oui, Gilbert, toi, tu as 60 ans et tu te verrais bien travailler plus longtemps ou pas?
Ah oui, moi, je me verrais travailler jusqu'à 63, 64, même peut-être 65.
Tu sens pas la pénibilité physique, ça va?
Pourtant, si, mais non, ça va, ça va.
T'as commencé à quel âge, Gilbert?
J'ai commencé à 18, à peu près.
Ah oui, donc t'as pas de problème de durée de cotisation, toi?
Mais non, mais bon, vous savez, quand on... Moi, je les vois à la retraite, tous, il y en a certains... je vous dis, c'est l'antichambre de la faim. Quand on est à la retraite, on s'emmerde, on va sur Internet, c'est tout ce qu'on fait.
T'as pas des petits enfants à garder? T'as pas de petits enfants à garder, Gilbert?
Oui, j'ai un enfant jeune en plus.
Ah. Ouais. Donc t'as pas encore de petits enfants, parce que c'est ça souvent le travail du jeune retraité.
Non, mais bon, Gilbert, il a envie de travailler.
Moi, je continuerai à travailler tant que je pourrai.
Ouais. Non, mais attends. Le système des retraites permet parfaitement à Gilbert de travailler autant d'années qu'il veut. Personne n'oblige les gens à arrêter de travailler à 60 ou 65 ans.
C'est quoi, elle vous envoie. Elle vous envoie un papier qu'il vous faut prendre à la retraite.
Non, oui, mais t'es pas obligé.
Bah, ton entreprise, elle peut commencer à te réduire.
Bah, c'est ton employeur qui dit, monsieur, c'est l'heure de prendre votre retraite, etc. Mais si t'as envie de continuer à travailler dans une entreprise qui souhaite te garder, tu peux continuer à travailler autant d'années que tu veux. Je crois que, si je dis pas de bêtises, la limite, c'est 70 ans, la limite. Hein. La limite, c'est 70 ans.
Bah écoute, Gilbert, ça te laisse une belle perspective de travailler encore 10 ans. Merci beaucoup, Gilbert, d'avoir été avec nous. Un grand merci à Christian également, qui était au 32-16 avec nous il y a quelques instants. Hervé Boulol, un grand merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Économiste à l'OCDE, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Justement, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 70% à avoir répondu comme Laurent Deman, non, il ne faut pas travailler plus et plus longtemps.
Ouais, mais la question était peut-être un peu facile de dire qui veut travailler plus longtemps.
Moi. Dès que je gagne, tout à coup, tu remets en cause mes règles. On dirait moi.
La question a été posée. Bon, est-ce que oui, c'est vrai. J'attaque. Oui, c'est vrai. On dirait toi. C'est quoi ça? Je suis un petit peu de mauvaise foi. On va parler des hommes et des femmes tout de suite avec Lisa Marie.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, après MeToo, en Corée du Sud, les hommes lancent un mouvement de protestation pour dénoncer la haine des hommes.
Oui, ça s'appelle « Touche pas à ma virilité ». C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en Corée du Sud. Selon ces groupes de défense des droits masculins, le féminisme dit « radical » est désormais hors de contrôle et la haine des hommes est omniprésente dans la société sud-coréenne d'aujourd'hui. Et c'est pour se défendre qu'ils ont créé leur propre mouvement, appelé donc « Touche pas à ma virilité ». Le mouvement est suivi principalement par la génération Z, des hommes qui se sentent accusés à tort, muselés et surtout moqués. Et justement, en parlant de moquerie, à l'origine de ce mouvement, un emoji, celui du pouce et de l'index rapproché en forme de pince, un emoji que de nombreux hommes estiment moqueur à l'égard des sexes masculins de petite taille. Et oui, alors ça vous fera peut-être sourire, mais en Corée du Sud, l'image n'a pas du tout fait rire avec cet emoji. Il est même devenu un symbole qui cristallise les tensions. Les groupes de défense des droits masculins se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières et plusieurs employés de grandes entreprises du pays ont été sanctionnés pour avoir utilisé cet emoji, donc dans des affiches, après des appels au boycott et des plaintes déposées, à l'heure où la Corée du Sud est l'une des premières puissances mondiales les plus en retard concernant la question de l'égalité homme-femme. De plus en plus de jeunes hommes estiment que le féminisme va trop loin et attribuent leur malheur non pas au gouvernement ou aux politiques, mais bien aux femmes. D'après une enquête d'ailleurs du Korean Women's Development, 65% des hommes âgés d'une vingtaine d'années ont affirmé que le féminisme était un mouvement de haine des hommes et 57% d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient prêts à rompre avec leur partenaire si elles se revendiquaient féministes. Donc plus de la moitié sont prêts à rompre si leur compagne se dit féministe. On parle bien sûr de la Corée du Sud, hein, je précise. Alors est-ce que vous savez comment on désigne le sentiment de mépris à l'égard des hommes, l'opposé de la misogynie?
Vas-y, la misandrie.
La misandrie. Oui. Tout à fait, la misandrie. Voilà, alors ce mouvement touche pas à ma virilité. Est-ce que vous pensez que ça va arriver jusqu'à nous?
C'est déjà le cas, hein. Ça existe déjà sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui veulent remettre les couilles au centre du débat.
Carrément, d'accord.
D'ailleurs,
comme ça.
Papacito, le blogueur dont on a parlé avec Mélenchon il y a pas très longtemps, c'est son projet aussi, remettre les couilles au centre du débat.
Bon, ben je vois que déjà. Le niveau progresse.
Mais tu ne te sens pas attaqué en tant qu'homme par les féministes?
J'entends, il y a des courants différents dans le féminisme, certains avec lesquels je suis en accord absolument total, d'autres avec lesquels je suis en désaccord, mais même ceux avec lesquels je suis en désaccord ne remettent pas, je n'ai pas l'impression que ma virilité est personnellement remise en cause, non?
Ouais, c'est quand même assez. Moi, je trouve qu'il y a une forme de désarroi finalement chez les hommes coréens, mais il y a quand même une forme de désarroi par rapport à certaines revendications des mouvements féministes. Je pense qui ont suscité cette réaction. Laurent, quand tu dis ça, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des revendications dans les courants féministes aujourd'hui qui te désarçonnent, qui t'agacent.
Ah oui, avec lesquels je suis en désaccord.
On va pas cacher la vérité. À nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est des débats qu'on a tous les jours entre nous, ouais. Avec Lisa Marie, avec Laure, etc. Et c'est vrai que
et contrairement à ce que dit Laurent, vous êtes désarçonné.
Oui, mais c'est je le reconnais.
C'était pas ma question. Non, c'était pas ce que j'ai dit. Je suis en désaccord avec Laure sur tel ou tel sujet, peu importe. Pour autant, je ne sens pas que ma virilité est remise en cause.
Non, mais
Mais c'est pas une critique, c'est-à-dire que le fait que la virilité soit remise en cause, c'est pas forcément un problème. Je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu changes complètement la manière dont la société était structurée et que tu commences à imposer l'égalité, ce qui n'était pas le cas, ça change tout le rapport à la virilité. Jour, et je pense que ça a même un impact dans la sexualité aujourd'hui.
Alors, je dirais pas jusque-là. Pas chez moi. Mais en revanche, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a 2-3 jours de ça, on s'est engueulé, mais on s'est vraiment engueulé sur le thème le fait d'ouvrir la porte à une femme, c'est la remise en cause de l'égalité homme-femme. Qui sommes-nous, nous les femmes, pour passer forcément avant vous les garçons dans les restaurants, les lieux publics, etc.
Bon, très bien. Même dans l'ascenseur.
Tu as le droit de penser ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. On ouvre la porte de la voiture, on ouvre la porte. En revanche, dans un restaurant, on rentre avant une femme pour une raison très simple, c'est qu'il faut que les premiers regards ne se portent pas sur elle, mais sur toi. Bref, on m'a appris toute une série de choses. Ça peut paraître totalement désuet, mais à l'âge que j'ai,
ça a un impact sur la virilité. La réalité, c'est
mais
que
il y a des pays
scandinaves aujourd'hui, si tu veux, dans lesquels, justement, les femmes se plaignent que les hommes sont devenus trop mous. Voilà, et donc elles essayent de faire des trucs. Non, mais ce que je veux dire,
je pense qu'il faut pas nier que le féminisme bouleverse absolument tout dans la société.
Et que la revendication d'égalité stricte des droits entre les hommes et les femmes va jusqu'à impacter, bien évidemment, la virilité.
Nous n'avons plus besoin de protection.
La virilité n'est quand même qu'une expression de la domination qui a jusqu'à maintenant prévalu dans la société des hommes sur les femmes. C'est un des paramètres. C'est pas le seul, mais c'est un des paramètres, bien évidemment.
En Corée du Sud, ça passe même par la colère, puisque quand 57% des hommes disent que s'ils ont une compagne qui se dit féministe, ils sont prêts à rompre parce qu'ils ne veulent pas avoir une compagne féministe, c'est quand même très fort.
Ah oui, mais quand on ne peut pas faire face, on prend la fuite.
Comment veux-tu que les hommes soient à l'aise aujourd'hui quand on entend, tu vois, il y a aussi une espèce de pression terrible.
Mais c'est dur, parce qu'on est dans une période, tu veux dire que tu es en train de vivre ce que les femmes vivent depuis des siècles.
La réalité, c'est que pour les hommes, c'est dur aussi.
C'est dur aussi. On fera un débat. Est-ce que c'est pas très dur d'être un homme en 2021? Il y aura énormément de choses à dire. Je rappelle que c'est le forum de l'égalité aujourd'hui. C'est organisé organisé par l'ONU. C'est à Paris aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont là. Hillary Clinton, la vice-présidente des États-Unis. Bon, je crois qu'elle est partie, mais ça n'est pas là en vrai. Mais en tout cas, c'est un événement aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve demain midi 14h. C'est l'heure sur RMC de parler cyclisme pour cette nouvelle étape du Tour de France. Je crois que c'est en Mayenne. À demain, salut.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.